retrouver Rose pour l'émission Contradiction sur IDFM Radio, un temps dédié aux gens qui se donnent du mal pour aller bien.
Double monde, création.
Je crois que le pire des manipulateurs, il se trouve dans notre tête. Mmh. Et pour éviter la dissonance cognitive, en plus, on va se justifier des très bonnes raisons d'agir comme ça.
Je suis Rose et ensemble, nous allons continuer d'étudier ce qui nous manque à l'intérieur et que nous n'avons de cesse de chercher à l'extérieur. En comprenant mieux les mécanismes de nos dépendances, nous essaierons d'aider ceux qui en souffrent encore, de près ou de loin, mais aussi ceux qui en souffriront peut-être plus tard, nos enfants. Quels sont les liens entre troubles mentaux, profils neuroatypiques et addiction? Quels sont les horizons, les espoirs et les découvertes auxquelles nous raccrocher? Si l'addiction est une maladie dont on ne guérit pas, comment vivre avec, dans les meilleures conditions possibles? Aux côtés d'auteurs, de médecins, de psychologues, de philosophes, de politiciens, de personnalités diverses, anonymes ou moins, plongeons ensemble au cœur de nos contradictions. Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Il dit qu'il a du mal à aller au bout des choses, mais ne fait pourtant rien à moitié. Procrastinateur hyperactif, il est son propre cobaye pour comprendre le monde. Suite à une dépression très jeune, il fut capable d'une spectaculaire introspection qui le conduira aux portes de sa perception et le mènera à créer alors une boussole mentale qui le guide encore aujourd'hui. Addict à la connaissance et à tout ce qui peut le rendre plus fidèle à lui-même, il réapprivoise sa mémoire, retrouve l'itinéraire du bonheur dans son cerveau, refuse qu'on le manipule, déjoue les pièges d'une fausse réalité, mène à bien des projets qui auraient pu mourir dans les abîmes de la procrastination. Fabien est un virtuose de l'esprit, bien plus qu'un simple magicien mental. Il est alchimiste du cerveau et maître de l'illusion, réputé pour sa capacité à lire les pensées et décoder les comportements humains. Jonglant spectaculairement avec des notions telles que la mémoire, la procrastination, l'addiction, la motivation ou la démotivation, Fabien nous invite à réfléchir sur la manière dont nous pouvons transformer notre mental en une forme constante plutôt que de devenir esclaves de nos propres pensées. Et oui, aujourd'hui nous avons l'honneur et la chance de faire un tour dans l'esprit créatif de Fabien Olicard.
Nous sommes donc dans ton antre, dans ton studio.
Exactement.
Là où tu fais tes vidéos.
Ouais.
Et je suis heureuse de venir discuter avec toi du cerveau, tout simplement, et de toutes ces notions avec lesquelles tu jongles si bien, de la motivation à la volonté, à la procrastination, qui, moi, me concernent de très près par rapport à l'addiction, parce que ce sont des mécanismes, des vitements, où voilà, il y a beaucoup de.
Absolument.
On va parler des biais cognitifs, on va parler de la procrastination qui est extrêmement présente dans l'addiction. Est-ce que déjà tu pourrais me donner ta définition de l'addiction ?
L'addiction, c'est. Je ne crois pas que ce soit définissable, comme on le dit souvent, d'avoir besoin de quelque chose. Pour moi, c'est d'avoir trouvé un remplacement à tout ce qui nous demande des efforts, en fait. Pour moi, la vraie addiction, c'est ça. C'est ce que tu vas faire à la place de quelque chose qui peut être utile, pratique ou nécessaire, mais qui te demande un effort. Je me souviens d'expériences qui ont été faites où les comportements addictifs, du coup, ne mangeaient plus. Donc, n'allaient plus faire leurs courses ou ne prenaient plus le temps de se faire à manger, etc. C'est ça pour moi l'addiction. Mmh. La vraie addiction, c'est quand ça peut surpasser tes besoins primaires de la pyramide de Maslow qui sont manger, dormir et être en sécurité.
C'est-à-dire un mécanisme d'évitement déjà,
oui,
de la réalité,
oui,
choses qui nous demandent justement un effort mais qui sont parfois simples et faciles à faire pour certaines personnes.
Bien sûr.
Et qui pour nous, donc c'est pour ça qu'à la base, moi j'ai toujours cette impression qu'il y a peut-être un trouble. J'ai entendu parler souvent de troubles déficitaires de l'attention, par exemple, peut-être que dont tu serais victime, entre guillemets, ou de grands inventeurs comme...
Bien sûr, comme Léonard de Vinci,
voilà, Léonard de Vinci,
Victor Hugo.
Voilà, qui écrivait, donc Victor Hugo qui écrivait nu pour que...
Ouais, pour être sûr de finir ses chapitres. Voilà. Mais c'était pas, en plus, c'était pas une technique de productivité chez lui. C'est que s'il ne faisait pas ça... Il savait qu'il n'allait rien faire. Il devait beaucoup d'argent, Victor Hugo, quand il écrivait, c'était sur Notre-Dame de Paris. Il avait eu des avances de la part de son éditeur. Il avait beaucoup de retard, il repoussait. Et puis c'est sous la menace d'un procès et d'un potentiel remboursement qui, au lieu d'aller faire la fête, parce qu'il aimait bien faire la fête, a demandé à ses domestiques de maison de supprimer tous les vêtements et il écrivait nu. Et pour que les domestiques rendent les vêtements, il fallait qu'il leur prouve qu'il avait écrit un feuillet entier, un chapitre. Ça a été sa seule manière d'avancer. Ce qui est une solution quand même assez bancale. Ça reste qu'un pansement, une béquille, parce que ça montre bien qu'il n'a rien solutionné, en tout cas dans son comportement d'addiction, quoi.
Mais c'est ça, c'est des béquilles de toute façon. Donc il aimait faire la fête, donc on y revient de toute façon.
Il aimait faire la fête. Après, il y a aussi des profils comme moi, tu vois, où j'ai pas de déficit de l'attention, mais j'ai une attention qui, un peu comme tout le monde, hein, mais quand même peut-être un peu exacerbée, adore changer de sujet. Léonard de Vinci, on le sait aujourd'hui, était un petit peu comme ça. C'est pour ça qu'il commençait ses croquis, passait sur autre chose. Il a mis 20 ans à finir la Joconde. C'est pas qu'il lui manquait des pinceaux, hein, c'est vraiment juste qu'il passait à autre chose, quoi.
C'est ce qu'on appelle la pensée arborescente aussi.
Oui, c'est une forme de pensée arborescente. Et du coup, il faut se canaliser parce que on peut être addict de cette nouveauté, en fait, et de cette nouvelle idée, là aussi. Puis il y a des profils addictifs. Hein. Moi, quand j'ai arrêté de fumer de la cigarette, la première question que j'ai posée à mon médecin, ça a été de lui dire « Je vois des copains, ils fument que le week-end. » C'est ce qu'ils me disent. C'est pas vrai. C'est des menteurs. Pour moi, c'était des menteurs. Parce que mon manque nicotinique était si rapide que c'était pas possible, que toute la semaine, ils y pensent pas, et puis ça va. Et puis, il me fait passer une batterie de tests, et puis il me dit « Bah voilà, t'as un profil addictif très très fort. » Alors, il me dit « T'es comment dans le travail ?» Dans le travail, je suis un peu travailloman. Si je m'y mets, je m'y mets. Il fait voilà, ça correspond. T'es comment avec, il me cite 2-3 loisirs, il me dit les jeux vidéo. Jeux vidéo, s'il y en a un qui me plaît, je le désinstalle ou je le revends. Mais à ce point, oui, parce que sinon je sais que je vais passer ma vie dessus. Et en plus, je suis un peu complétiste. Alors si c'est un jeu où on peut réussir en faisant mieux que la réussite, par exemple à Mario Bros, il faut avoir 3 étoiles à chaque niveau, tu peux faire tous les niveaux avec 0 étoile. Mais moi, je vais vouloir les 3 étoiles. Donc j'ai l'addiction à la complétion, tu vois. Et du coup, il m'a démontré quand même qu'il y avait des profils addictifs et que j'en faisais partie et que j'ai compris dans le fond intérieurement assez tôt en tout cas, pour toucher à aucune drogue, par exemple. Tu vois, je viens de La Rochelle, c'est une ville très festive, la drogue circulait dans les concerts, etc. J'y ai jamais touché, non pas parce que je suis mieux que les autres, mais parce que j'avais peur que ça me plaise, tu vois. Et je me suis dit, moi, si ça me plaît, je vais plonger dans la piscine et je vais jamais retrouver l'air frais, quoi.
En même temps, je pense que tu sais retrouver l'air frais, justement. C'est ça qu'on va étudier aujourd'hui. Ton métier, donc le mentalisme, c'est étudier les comportements humains de près, en fait, quelque part. Et c'est étudier comment le cerveau fonctionne. Et est-ce que je me suis dit que tu pouvais nous aider, justement, à comprendre des comportements addictifs? Est-ce que ça peut aider pour ce genre de choses, justement?
Alors, le mentalisme en lui-même, tel qu'il est décrit dans la littérature, c'est une branche de la magie pour bluffer les gens sur scène. C'est toujours important pour moi de le préciser. Parce que je n'ai pas voulu rentrer là-dedans,
parce qu'on n'est pas dans ce sujet-là.
Et puis c'est surtout pour ne pas me mettre une étiquette d'expert un peu charlatan qui ne le serait pas. Je ne suis pas expert, mais je suis passionné, évidemment. Et parmi les techniques qu'on emploie dans le mentalisme, il y a ce que tu viens de citer. Et du coup, là, je fais l'inverse d'un expert. C'est de la vulgarisation. Je vole le travail des experts et je le presse pour extraire des choses qui peuvent être pratiques d'abord pour moi, d'ailleurs, et puis ensuite utiles ou intéressantes pour les gens qui ont la gentillesse de m'écouter. Donc oui, pour répondre à ta question aussi simplement et aussi binairement, ça peut aider à comprendre des comportements. Parce que par le prisme du mentalisme, ou cette passion en tout cas pour le cerveau, j'ai l'impression que l'addiction, c'est une sorte d'auto-manipulation, comme si on scindait un peu son esprit en deux, et que le cerveau, dans des mécanismes qu'on connaît bien à la base, hein, comme les mécanismes de biais cognitifs que tu citais tout à l'heure, va prendre les commandes de nos décisions. Et tu vois, des fois, on a peur des mentalistes parce qu'on se dit « Ah, il va me manipuler, il va... » Mais en fait, je crois que le pire des manipulateurs, il se trouve dans notre tête. Et pour éviter la dissonance cognitive, en plus, on va se justifier des très bonnes raisons d'agir comme ça.
Dans l'addiction, notamment, quand on fume, le nombre de personnes qui disent, moi la première qui disait, il faut bien mourir de quelque chose. On trouve des justificatifs à nos comportements pour pas être en dissonance. Oui, on veut pas être en dissonance cognitive.
C'est fou d'en rire à ce point. Tu vois, en ce moment, je le vois avec l'addiction au contenu disponible sur les réseaux sociaux. Parce que ce n'est pas tant l'addiction au réseau que sur le contenu disponible. Il y a eu une forme d'addiction pendant un temps au like. Tu vois, quand vraiment Facebook était à son apogée, qu'Insta est arrivé, quand tu voyais une notif, quand tu voyais un like, ça déclenchait de la sérotonine, qui est qui est quand même assez incroyable parce que c'est l'hormone qui s'est déclenchée quand on vient de se rencontrer, qu'on s'est dit bonjour et qu'on s'est fait un compliment, toi et moi. C'est fait pour valoriser le lien social, la sérotonine. Eh bien, elle était déclenchée par les likes, le nombre d'abonnements. Du coup, eh ben, le manque, quand on ouvre l'application et puis qu'on n'a pas de likes, on n'a pas un nouvel ami, qu'est-ce qui se passe ?
La notification, c'est dur.
Exactement. Et alors là, en ce moment, je suis un peu fasciné par une autre forme d'addiction, c'est l'addiction au contenu générant une émotion. Donc, c'est plus les likes, etc. C'est juste le fait de scroller et que sans effort et surtout sans avoir prendre la décision et de faire le dur choix de je vais regarder quoi, on a un contenu court qui arrive, qui va provoquer une émotion, un rire, une déception, une peur, une colère, ce qu'on veut, et donc qui va déclencher de la dopamine et enclencher le circuit de la récompense. Oui. Et le circuit de la récompense est à la base du profil addictif. Et ça, c'est très dur à voir. Hein. On est quand même, pour certaines personnes, jusqu'à 4 heures de consommation comme ça de contenu snack sur les réseaux sociaux.
Qu'on n'aurait pas choisi vraiment.
Qu'on n'aurait pas choisi. 4 heures, souvent les journaux disent bah voilà, 4 heures sur 24 heures. Non, non, non. On n'est pas 24 heures éveillé et actif. Alors on va compter 16 heures et encore on est généreux parce qu'on ne compte pas les temps de repas et tout et d'hygiène. Donc ça fait quand même 4 heures, ça fait un quart de son temps, ça fait 25% de son temps. Et quand je vois que ça touche une population en plus relativement jeune, aujourd'hui, c'est presque un manifeste que je te fais, mais ça m'inquiète énormément parce que moi, c'est quand j'étais jeune que j'ai eu mes idées, mes espoirs pour le futur, que j'ai tenté des trucs, qu'il y en a qu'on réussit, qu'il y en a qu'on raté, et que je me suis construit. Et je pense que si j'étais tombé jeune aujourd'hui et que j'avais cette addiction à tout ça, bah en fait, tu laisses pas d'air pour l'oisiveté, pour l'ennui, pour tester, pour essayer. Et on n'a pas encore le recul, mais je me demande ce que ça va donner dans 5 à 10 ans. Tu vois, j'ai très peur que ça donne juste des dépressions, moi, en fait. Hein.
C'est un peu la même chose que quand les gens fumaient à 13 ans.
C'est ça.
Et voilà, aujourd'hui, on va se rendre compte. Mais sauf que, oui, la cigarette, elle a ce truc-là. Bon, c'est au niveau de la santé.
Ouais.
Elle ne détruit pas la vie, on va dire, entre guillemets, par rapport à la drogue, où on perd le contrôle de sa vie, ou à des comportements comme les troubles du comportement alimentaire qui font qu'on ne peut plus avoir de vie sociale.
Ouais.
Alors que la cigarette, au contraire, c'est une drogue sociale, on
Exactement.
Va dire. Même l'alcool, ouais, ouais. on va dire, ça
l'alcool,
peut...
L'alcool, c'est peut. Compliqué, hein. c'est une vraie drogue sociale. J'avais beaucoup travaillé sur le sujet.
Mais j'ai vu tes ouais. vidéos assez intéressantes sur justement...
Est-ce que je veux ce verre Exactement. Ou pas, en fait et tu vois, moi, depuis quelques années, en tournée... avec mon spectacle, on emmène des bières à 0% parce que j'aime le goût de l'amertume de la bière, mais je veux pas nécessairement de l'alcool qu'il y a dedans. Et ça a été fou parce que tu vois, comme quoi aussi, je sais plus, quelqu'un disait, on est la somme des qualités de nos cinq personnes qu'on fréquente le plus, tu vois. Et mon entourage, qui sont quand même des régisseurs de spectacle, des vieux de la vieille, tu vois, c'est compliqué d'avoir les discussions sur l'alcool avec eux. Et ben maintenant, ils boivent des bières sans alcool. Ou des fois, le midi, le gars du spectacle proposait du vin et tout. Et le plus ancien de mes régisseurs, le plus âgé, dit « Non, non, c'est trop facile de boire à midi, nous, on a arrêté. » Je me suis dit « Ah, c'est bien, les mentalités, elles peuvent changer, tu vois, tout le temps. Mais encore faut-il prendre conscience que ben, l'addiction, elle est partout. » Et pour l'alcool et la cigarette, pour en revenir à ça... C'est un peu visible parce qu'il y a quand même des changements de comportement, des choses très visibles, tu vois, sur de la santé physique. Mm-hmm. La santé mentale, c'est quand même plus insinueux. Hein, parce que c'est comme les maladies invisibles, en fait.
Je pense
c'est derrière.
Peut aller bien. Alors, en fait, je veux dire, même avec des maladies,
bien sûr.
Les gens qui ont une bonne santé mentale peuvent surmonter un cancer.
Oui, voilà. ça se voit. Hein,
en tout cas, moi,
la maman a traversé ça. Par la qualité de ses soins, mais aussi par la force de son mental, parce qu'elle ne lâchait pas, quoi, elle combattait.
Exactement. Hein. Moi, je suis plus à l'aise avec des problèmes physiques que des problèmes...
Ouais.
Dès que je vais mal mentalement, il n'y a plus rien qui va, alors que bon, j'ai eu un cancer du sein et j'allais bien. Et bon, c'était moins difficile
ouais.
que mes multiples dépressions, par exemple, ou me débarrasser de mes addictions. Vraiment plus difficile.
Oui, parce qu'une maladie, tu connais ton ennemi,
Exactement.
Tu le vois, et tu sais qu'il ne tient presque qu'à toi de le combattre, en tout cas, que tu peux faire ton mieux. La dépression, elle enclenche là aussi d'autres mécanismes d'abandon, en fait, et puis de boucles de pensées non désirées, non désirables, des pensées noires que tu n'as même pas choisies, tu vois. Et surtout, ça met des filtres sur la réalité, parce que la réalité, c'est qu'elle n'existe pas de manière intrinsèque.
Et puis les gens ne la voient pas, alors ça n'a rien à voir. On vous soutient quand vous avez une maladie, alors que la dépression, on a envie de te dire, comme les addictions, mais secoue-toi, mais arrête.
C'est ça. Si tu vas avoir le soutien de tes amis la première journée, et puis la semaine d'après, ils vont dire « Oh, t'es encore là-dessus ? » Non, mais allez, il faut y aller là maintenant.
D'ailleurs, en parlant de ça, il faut y aller, la fameuse motivation et la démotivation dans ton livre...
Votre idée va devenir une réalité.
Exactement. Ce livre est sous-titré « Journal d'un... »
D'un procrastinateur abstinent.
Donc c'est important de voir cette abstinence, parce que du coup, est-ce que la procrastination est une addiction ? Moi, je la vois comme la cause et la conséquence en même temps des addictions.
T'as tout à fait raison, c'est les deux faces d'une même pièce. Elles germent en chacun d'entre nous et on va avoir un profil qui va faire qu'on va devenir un peu addict à cette procrastination ou pas. C'est pas un pan que je détaille à ce point que la conversation qu'on a dans ce livre, mais tu as tout à fait raison. En fait, on ne devient pas procrastinateur, on l'est déjà. Et après, on va être addict à cette procrastination, ce qui peut être mon cas. Donc, quand on est addict à quelque chose, on ne devient pas plus procrastinateur. On peut mettre en place des systèmes pour devenir abstinent à cette procrastination qui nous donne tant envie, qui fait que... peu importe ce que j'ai à faire. Regarde, moi, le point de départ, mais je sais qu'il y en a qui nous écoutent, qui vont se reconnaître. Il n'y a pas plus fort que lorsque je suis en retard, que j'ai envie de nettoyer les tâches qu'il y a sur ma table. Alors que j'avais tellement de temps pour le faire et je ne l'ai pas fait. Mais là, c'est maintenant que je veux le faire. Donc, comme quoi la tâche sur la table n'est pas un problème de tâche en lui-même. C'est que c'est quand c'est au moment de le faire que je n'ai pas envie de le faire. Et c'est quand je dois faire quelque chose d'urgemment que celui-ci revient à mon centre d'intérêt, parce qu'en fait, on n'a pas envie de se mettre en action dans l'inconfort de devoir faire quelque chose d'autre, en fait. Et surtout, quelque chose qu'on sait faire. La procrastination, elle est souvent liée à deux extrêmes. Ce que je ne sais pas faire et qui m'encombre, qui me demande du coup beaucoup d'investissement, et ce que je sais très bien faire. Du coup, ça ne m'intéresse plus. Et moi, j'ai cette procrastination très forte... je sais le faire, ça ne m'intéresse plus. Il y a des choses que j'ai arrêtées dans ma vie. Par exemple, j'avais un magazine qui s'appelait Curious. Je l'ai arrêté au bout de 3 ans. Alors, il existe maintenant sans moi. Parce que je savais trop bien le faire. Et plus ça va, plus l'engrenage le plus pourri du système de ce magazine, c'était moi. Parce que je bloquais le système, on attendait des réponses que je ne donnais pas, mais parce que c'est bon, j'avais, je crois, fait le tour de comment on fabrique un magazine et comment, tu vois. Donc, c'est assez perfide parce que, comme tu le dis, c'est à la fois une cause, mais à la fois aussi une conséquence. Et du coup, ça donne une espèce de machine infinie qui s'auto-alimente.
Ça fait entièrement partie de l'addiction, en fait, cette procrastination. Parce que ne serait-ce qu'on est en train de travailler sur quelque chose qui est difficile, la première chose qui nous vient à l'idée, c'est d'allumer une cigarette, d'aller au frigo, d'appeler un pote, faire tout ça, évidemment.
D'avoir cette grande conversation avec son ami... à qui on a promis depuis 3 semaines de le rappeler qu'on ne l'a toujours pas fait. C'est fou, là, d'un coup, on a le temps de le faire.
Après, moi, j'ai ce truc-là seulement sur les choses que je ne sais pas faire, tu vois. Moi, quand je sais faire quelque chose, à la limite, je me détends un peu. J'aime pas avoir... Quand j'ai fait le tour de quelque chose, à la limite, je me sens plutôt rassurée. Il y a un côté doudou.
Bien sûr.
Mais ça, c'est les entrepreneurs qui sont comme ça, qui ont besoin toujours de nouveautés. On m'a dit, d'ailleurs, une connaissance commune que nous avons... je ne parlerai pas d'elle, mais elle a un podcast extraordinaire qui s'appelle Gamberge. Elle m'a dit que tu étais addict à la connaissance. Et en écoutant un peu les podcasts, je me suis rendu compte qu'un mec qui démonte un sèche-linge parce qu'il ne marche plus, pour comprendre comment il fonctionne.
C'est ça, la motivation première n'était pas de le réparer, était de comprendre c'est quoi...
Une fois que tu as su, tu n'avais même plus envie d'en avoir un.
Non, c'était... Ouais, c'est ça. Non, moi, je suis un curieux de nature. C'est ça, la grosse fibre d'ADN au niveau de la curiosité. Donc, j'ai envie de savoir comment fonctionnent les choses, le monde. Tu vois, le plus gros casse-tête, c'est le cerveau. Hein. Je crois pas que ce soit hasardeux que ce point-là... Je pense qu'on est tous intéressés à un moment donné par le cerveau. Et puis, il y a une résonance après avec qui on est, pourquoi on a cet intérêt-là. Mais tu vois, on parlait tout à l'heure de l'addiction. On parlait de la procrastination et de la motivation. Et là où j'ai eu de la chance, c'est que... Parce que tu vois, le bouquin que j'écris, Votre idée va devenir une réalité, c'est pas un bouquin que j'écris pour les gens. Hein. C'est un résidu d'expérience de ce que j'ai mis en place pour moi. Et si par bonheur, les gens peuvent piocher des éléments dedans sans le prendre pour une méthode, tant mieux. Ça contribue à aider.
Peu,
mais...
Parce que je pense que c'est des idées qui peuvent... Idée, ça peut être celle d'arrêter de boire ou de fumer ou de courir un marathon, comme
bien
tu
sûr.
Dis, ou des choses qui nous font du bien et qui sont censées être bonnes pour nous. Donc, arrêter une conduite addictive peut être la fameuse bonne idée de ton livre. Et donc, tu
bien
nous
sûr.
Donnes des clés.
Oui, 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 absolument. Mais le premier point, tu vois, que j'ai compris, c'est qu'il fallait arrêter avec l'idée de motivation pure. C'est-à-dire de, tu vois, arrêter la cigarette. À un moment donné, je sais, je vais me réveiller un jour, je vais être motivé, je vais arrêter.
La volonté, la fameuse.
Bon, spoiler alerte, moi, j'ai jamais trouvé le bon moment pour arrêter. Hein. Comme je marche beaucoup en rationalisant les choses, et ça, on va en reparler, c'est... Quand je me suis aperçu, c'était un anniversaire, qu'à partir du jour suivant, j'aurais eu autant de jours dans ma vie en tant que non-fumeur qu'en tant que fumeur. Mmh. Donc j'ai vu ce point de bascule et d'équilibre, et là je me suis dit, il est de ma responsabilité de savoir si, du coup, j'aurais été plus fumeur que non-fumeur dans ma vie. Et dans le fond, personne n'a envie d'être addict à un poison, qui plus est, tu vois. Donc c'est là où j'ai commencé à donner du sens. Et de ce sens-là, j'ai projeté un futur, est-ce que ça allait pouvoir m'apporter d'arrêter ? Et de ça, j'ai trouvé des éléments qui allaient m'aider à persévérer, tu vois ? Et ma motivation, ça a été l'élan de nouveauté pour essayer des systèmes. Mais la motivation, en fait, elle aussi, elle fait partie du circuit de la récompense. Elle génère de la dopamine très vite. Et elle repart du coup très vite.
En fait, toi, ce que tu cherches, c'est comment ne pas être démotivé.
Comment, en tout cas, rationaliser pour persévérer, tu
vois.
Voilà,
persévérer.
Par exemple, dans un premier temps...
C'est ça le plus dur, parce qu'on te dit souvent poser le verre pour les alcooliques. On dit souvent, c'est pas le plus dur de poser le verre. Le plus dur, c'est de rester abstinent.
Exactement, exactement. C'est tu te dis, il faut que tu te rappelles pourquoi tu fais les choses, tu vois. Quand tu cours un marathon, par exemple, 42 km, ou moi j'ai fait des semis, donc 21 km... Oh. Au 17e kilomètre, tu as intérêt de savoir pourquoi tu cours. Parce que la motivation que tu as eue au départ, quand il y avait les sifflets, les danseurs, la musique forte et tout le monde qui fait « Allez, on y va !» Elle est 17 kilomètres derrière toi. Ça fait 1h30, 2h pour certains qu'elle est derrière toi. Moi, comme je courais lentement, elle était 2h derrière moi, cette motivation. Qu'est-ce qui va faire que je vais me bouffer ces 4 kilomètres ? Toi, de l'extérieur, tu vas te dire « Parce que tu as fait le plus gros. » Mais toi, de l'intérieur... Vraiment, tu te posais la question, mais qu'est-ce que je fais là, quoi ? Moi, j'ai dû rationaliser, encore une fois, pour trouver de quoi persévérer. Ma première rationalisation au 17e kilomètre, c'était de me dire, si j'arrête maintenant, je m'en fous, j'arrête maintenant, qu'est-ce que je fais là tout de suite ? Je suis en plein Vincennes, donc je vais pas appeler un taxi. Je vais devoir sortir de Vincennes en marchant. Ça va me prendre un temps monstrueux, en plus j'ai mal aux jambes. Donc a priori, j'ai plus d'intérêt à continuer de courir pour sortir de ce bois, prendre un taxi et rentrer chez moi, que de m'arrêter maintenant, parce que je vais me remettre en mouvement et ça va être encore plus long que si je courais. Et c'est sur des éléments comme ça, rationnels, il faut dézoomer, il faut comprendre pourquoi on fait les choses, comprendre pourquoi on doit persévérer, et comprendre aussi que c'est normal d'avoir des obstacles. Tu vois, on est quand même dans une période où dans les échanges, on a des experts en tout, des coachs en tout quand même, qui nous expliquent que c'est facile. Moi, je trouve ça chouette de rappeler que c'est pas facile. J'en parle dans le livre, la vie, c'est un petit peu un film, c'est une succession de films. Dans un film, t'as d'abord, c'est toujours le même scénar, la situation initiale, il se passe l'élément déclencheur, de là, il va y avoir les péripéties, donc c'est toujours des obstacles à franchir, des problèmes à résoudre, et puis à la fin, on aura la nouvelle situation initiale, on aura progressé entre-temps. Toute notre vie, c'est du « mais » et du « et donc ». En permanence, on a des problèmes à résoudre, des obstacles à franchir. C'est normal, c'est naturel, donc c'est pas grave. Au contraire, parlons-en, parce qu'il faut s'y préparer. Si demain, tu as envie de te libérer de telle addiction, que tu sais que okay, tu as le bon accompagnement pour le faire, etc., il faut garder au fond de soi que ça va pas être si simple. Il devrait, en temps normal, apparaître des obstacles non identifiés qui vont arriver. Et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, malheureusement, son animal de compagnie qu'on aime le plus au monde, qui a un problème et qui nous quitte. Ça, c'était pas prévu sur un circuit de sevrage. Hein. Et c'est très dur. Tu vois, j'étais au restaurant avant-hier avec Bernard Werber, qui est un ami, qui est auteur de livres et tout. Et puis, il y a un truc qui le fascine, c'est qu'à chaque fois, quand il revient des toilettes ou de quelque part, je le regarde dans le vide. Je suis pas avec mon téléphone. Et donc, il me dit, mais ça, je sais pas comment tu fais à chaque fois. C'est un truc qui me fascine chez toi. Il me dit ça l'autre jour. Et je lui dis, oui, mais je buvais un café. Il me fait, c'est quoi le rapport ? Je fais, pas plus d'une addiction à la fois. et il me fait, mais t'es sérieux ? Je fais, oui. Et puis, tu sais, toi.
Ça, c'est sérieux ?
Ah ouais, moi, j'essaie de rationaliser. Je me dis, ok, si j'ai un truc un peu d'addiction, tu vois, le café, boire des cafés en fait partie. Je vais préférer boire un café à de l'eau. Donc, je me rends compte que c'est anormal, tu vois. Eh bien, si je prends mon café, je ne vais pas en même temps scroller sur mon téléphone, pas plus d'une addiction à la fois, c'est déjà pas mal à gérer pour conscientiser que je suis OK et en train de m'autoriser à vivre cette addiction-là. Tu vois, il faut rien mettre sous le tapis. Avoir conscience, c'est déjà pas mal. Tu vois, c'est déjà un bon point de départ, je trouve. Et puis, la suite de la discussion était marrante parce qu'il me dit, mais c'est marrant parce que tu fais tellement de choses et du coup, ben souvent, je ne te vois rien faire. Et je fais, oui, mais je crois que de l'oisiveté naît la productivité.
Bien sûr.
Tu vois, c'est parce que justement, j'ai maîtrisé dans le temps toutes ces addictions, que j'ai du temps qui peut paraître de l'ennui, mais que pas du tout de l'ennui, parce qu'en fait, on est dans notre tête, on fait des connexions bizarres dans le cerveau, on réfléchit, les arbres poussent, les feuilles aussi, et c'est comme ça qu'on a des idées et qu'on peut commencer à voir laquelle brille le plus et à commencer à la jauger, est-ce qu'elle est intéressante à suivre ou pas.
J'avais envie de parler des biais cognitifs, évidemment, parce que tu évoques souvent l'influence de ces biais sur nos actions. Et on peut déjà expliquer ce que sont ces biais, en fait. Hein, c'est des mécanismes d'automatisme qui peuvent être liés à des émotions, peur, colère, anxiété ou à des habitudes de pensée acquises depuis longtemps. Il y en a quelques-uns qui, moi, me parlent beaucoup. Évidemment, la dissonance cognitive dont on a parlé, c'est-à-dire ce fameux biais par lequel on justifie, on rationalise des choses.
Pour ceux qui nous écoutent, si vous connaissez pas la dissonance cognitive, c'est quelque chose d'insupportable pour le mental. C'est votre action n'est pas cohérente avec ce que vous pensez ou vos valeurs.
Sauf que c'est exactement ce qui nous arrive tout le temps tout le dans temps. Notre société en vrai.
Mais le bon exemple, c'est 1er janvier, j'ai la motivation cette année, je me mets au sport, c'est ma bonne résolution. Et puis comme c'est nouveau et que je suis bourré de dopamine dans le sang, je vais prendre l'abonnement à la salle de sport. Mais alors je vais le prendre avec engagement parce que moi quand je m'y mets, je m'y mets. Et puis je vais acheter le matériel pour, je vais peut-être prendre une application. Là, et je suis sûr que vous allez reconnaître du monde, première semaine, vous y allez 3 fois dans la semaine et en plus vous êtes insupportable, vous en parlez à tout le monde et vous dites tu devrais parce que moi depuis que je fais le sport quand même, tu saoules tout le monde avec ça. Deuxième semaine pareil, troisième semaine tu y vas peut-être qu'une fois ou deux parce que tu as eu moins de temps, quatrième semaine tu y vas pas parce que là tu n'as pas le temps et tu n'y retourneras jamais. Et c'est au mois de septembre, peut-être en faisant tes comptes, tu t'aperçois qu'il y a ce prélèvement mensuel que tu ne vois pas bizarrement habituellement.
Non, on le voit pas.
Et là tu rentres en dissonance. Parce que tes actions étaient correspondantes à tes valeurs, mais tu n'y es jamais allé. Et du coup, tu commences à trouver des choses, des justifications. Mais ne croyez pas qu'on vous dit que c'est des justifications débiles. Elles sont très, très viables en plus. C'est de se dire, oui, mais là, je n'ai vraiment pas eu le temps. J'ai beaucoup travaillé. Puis j'avais les enfants. Et puis en plus de ça, du sport, j'en fais. Parce que, parce que je vais au travail à pied quand même, ça compte. Oui, tout ça est vrai. Mais en fait, ça cache tout le problème qui était, j'avais décidé d'aller une fois de temps en temps à la salle de sport, et en 9 mois, je pense qu'il y a eu le « une fois de temps en temps » aurait pu se présenter. Mais c'est des justifications comme ça, mentales, et c'est très dur de les identifier, de les regarder en face et de se dire « ben non, là, Fabien, t'es en train de te justifier auprès de toi-même pour pas être en dissonance. Maintenant, tu as le droit d'admettre que t'as merdé sur toute cette période, et qu'est-ce que tu décides de mettre en place ?» Il y a 2 solutions, où tu décides que, ben non, la salle de sport, en fait, je ne veux pas y aller et je n'ai pas envie de faire cet effort, donc j'arrête tout ce côté-là et j'arrête aussi de m'auto-flageller parce que j'y vais pas. Ou alors, je décide de mettre un système en place pour vraiment y aller et m'y tenir et arrêter de commencer un truc en le faisant 3 fois par semaine, mais peut-être 1 fois par semaine avec un chouette rituel, une récompense derrière, en comprenant pourquoi je veux y aller, pourquoi je veux aller faire ça. En fait, qu'est-ce que je vais aller faire à ma salle de sport? Parce que je pense que la plupart des gens qui s'inscrivent ne savent même pas ce qu'ils vont faire là-bas, n'ont jamais touché une machine.
L'objectif est souvent faux. En fait. Et c'est surtout qu'il n'est pas, pas ancré en nous, c'est pas une vérité. C'est pour faire comme les autres ou c'est pour dire je fais du sport. Mais en fait, comme tu l'as
la
dit,
la raison profonde, la racine.
Moi, j'ai arrêté de fumer il y a 5 mois. Et j'ai eu, comme toi, un déclic, quelque chose qui était mon désir premier, ma motivation première, c'était la liberté. Je me suis dit, je ne veux plus être cette nana qui va chercher des clopes le dimanche matin.
Mais c'est incroyable ce que tu dis, parce que je t'ai parlé de cet équilibre, et il y a quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, un grand professionnel, le buraliste à côté de chez moi, qui est la personne qui a eu l'autorisation de plus le mal me parler de ma vie. C'est-à-dire que le dimanche matin, comme tu dis, j'allais à côté, il était ouvert lui. Hein. Il avait 1 ou 2 clients à son bar, parce qu'il faisait bar. Il leur parlait, il me jetait pas un coup d'œil, il me parlait comme un chien. Et moi, je restais gentil parce que je voulais ma drogue.
C'est l'heure, hein, on les attend.
Tu vois ? Et ça m'a beaucoup aidé dans les moments de manque à me dire, tu veux aller encore le voir, lui, qui te marche bien dessus, parce qu'il sait que quoi qu'il arrive, tu vas sourire et à la fin, tu vas dire merci. Ça, c'est fou. Effectivement, on peut...
Il faut s'en rappeler après,
ouais,
à chaque
fois.
Ouais, complètement. Là, c'est vrai que je suis dans la phase où j'ai encore envie de fumer et j'ai plus le même déclic, donc j'essaie de trouver d'autres choses. Mais moi, ce qui est bizarre, c'est que je me suis inscrite exprès dans une salle de sport qui coûte exactement le même prix que ce que je dépensais par mois. Donc, en me disant, je vais aller à la salle de sport...
Pour le rationaliser.
Voilà. Finalement, je n'y vais pas. Donc, exactement comme ce que tu disais, mais je rationalise tout à fait en disant, de toute façon, cet argent, il serait dans les cigarettes. Donc, je pense que j'ai raison pour l'instant. Cet argent,
en tout
au
cas,
moins, il n'est pas dans mes poumons.
Exactement. Non, mais...
J'y vais un peu.
C'est ça, il faut à minima regarder. Toi, c'est un autre circuit. Tu ne peux pas te flageller pour l'instant de ne pas aller à la salle de sport.
C'est déjà super bien.
Parce que
tu dis qu'il faut célébrer. Des fois, exactement. Avant la finalité, il faut célébrer ta réussite.
Il faut célébrer les moments forts sur le parcours. Mais quand tu dis qu'il faut les célébrer, c'est même indispensable. Parce qu'attendre la grande finalité pour la célébration, bah, c'est se priver de petits moments de dopamine, de petits moments où on est fier de soi. Et surtout, tu sais, on devient ces personnes qui disent « Non, mais moi, je fais jamais rien, je réussis rien. » Parce qu'on néglige quand même. C'est quand même fort de se dire « On est des êtres humains, on est capable de se projeter dans le futur différemment de comment on est maintenant et de fournir les efforts nécessaires à opérer ce changement.
Wow. »
Donc, en fait, toutes les étapes à ce changement-là, on peut se dire bravo, hein, c'est
ça,
vraiment...
Ça, c'est tout le sujet. Et puis surtout, l'addiction, en fait, quand on arrête quelque chose, c'est quoi la fin? Il n'y a pas de fin.
Non, mais c'est ça, la fin, c'est de tenir,
oui.
Ou c'est de reprendre. Donc,
chaque jour, c'est une victoire.
Oui,
c'est ce qu'on dit aux Alcooliques Anonymes, juste pour aujourd'hui,
bien sûr,
c'est ça.
Ouais.
Moi, chaque jour, je célèbre ma sobriété.
C'est t'es sobre déjà aujourd'hui. Tu vois, j'ai rencontré des gens qui essayent de baisser leur addiction au portable, et puis alors, ils y arrivent des fois, durant une journée, à passer... prendre le portable de la journée, et puis ils font « Ouais, mais après tout le reste de la semaine, tu parles, je l'ai eu. » Je fais « Ouais, mais tu l'as pas eu mardi. » Déjà, tu l'as pas eu mardi. Qui est capable, ici, autour de toi, de te dire « Je n'ai pas pris mon portable pour faire quoi que ce soit mardi, parce que je savais que j'avais pas d'appel, tu vois ?» Donc c'est très fort, en fait. Tu as raison. Ça fait partie, d'ailleurs, des justifications inversées. Ton cerveau, pour pas que tu fournisses d'efforts ou que tu vives le manque, il va te dire « Ça sert à rien. »
Mais ça, tu l'as très bien dit, parce que tu expliques qu'il faut 25%, ça utilise 25% de ton énergie.
Exactement.
De vouloir changer quelque chose.
Ah ouais.
Et donc le changement,
physiologiquement parlant, en plus.
Plus on avance dans le temps, en plus, parce que les enfants sont plus malléables.
Bien sûr.
Mais nous, adultes qui avançons, qui vieillissons, en fait, on a envie juste de se vautrer dans nos habitudes.
Bien sûr.
Parce qu'il y a quelque chose dans notre
tête. Changer une habitude pour le cerveau, ça veut dire, au sens littéral, débrancher des synapses, donc
et reconnecter,
créer des nouvelles synapses, donc c'est les espèces de câbles qui vont relier les neurones, il faut les entourer de myéline, qui sont des isolants électriques, etc. Donc ça lui demande quand même vraiment du taf et un effort considérable, et ça lui demande de puiser dans les ressources, l'oxygène, les sucres, les glucides, les lipides, etc. etc. Donc,
j'étais contente de savoir que ça utilisait de l'énergie, c'est-à-dire qu'on maigrit aussi
un
petit peu.
Ah oui, on maigrit énormément.
Moi, je fais que ça, essayer de changer et apprendre. Alors,
tu rigoles, mais...
je maigris pas beaucoup, mais...
Les journées où tu as beaucoup réfléchi, là, comme tu fais, que tu reviens et que tu te dis, oh là, j'ai la tête comme ça, là, tu te tiens la tête et tout. Quand on fait un petit dessin pour quelqu'un qui réfléchit, on fait de la fumée, tout ça, c'est pas un hasard.
Mon émoji préféré, c'est la tête en feu, là.
Ben, c'est ça, c'est ça.
J'ai l'impression d'être comme ça en permanence.
On consomme des calories, donc on produit de la chaleur. Et d'ailleurs, c'est de là que vient le neuromythe qui dit qu'on n'utilise que 10% de son cerveau. En vrai, c'est faux, on utilise 100%, mais pas en même temps. Parce qu'en même temps, il y aurait surchauffe. Il n'y aurait pas assez d'énergie pour le faire. Donc oui, effectivement, ça demande quand même beaucoup de ressources. Et le cerveau te dit « ça ne sert à rien ». Il faut trouver des phrases et des raisons pour le contrer. Moi, ma plus belle phrase, je l'ai trouvée maintenant il y a plus de 20 ans. Elle m'aide dans toutes circonstances. Je me rappelle que 1 vaut mieux que 0.
Ah, ça, j'aime beaucoup. Ouais. Tu dis, il n'y a rien qui sert à rien.
C'est ça.
Et ça, moi, le podcast s'appelle un podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Il faut même un micro-truc.
1 vaut mieux que 0. C'est-à-dire que si vous vous mettez à faire du sport demain et que vous faites une pompe par jour, votre cerveau va vous dire que ça ne sert à rien et tout votre entourage va se moquer de vous. Sauf qu'une pompe par jour, c'était mieux que 0. Si vous voulez apprendre une nouvelle langue et que vous révisez 1 minute par jour, c'est pas grand-chose, ben c'est mieux que 0. Quand j'écris mon livre...
Un mot.
Donc, je fais 1667 mots par jour pendant 30 jours pour faire une première version. Ça fait 50 000 mots. Il y a des jours, j'ai pas très envie d'écrire mes 1667 mots, et puis c'est difficile, et puis je suis malade, j'ai du travail, etc. Donc, je me dis, bon, Fabien, tu écris 100 mots. 100 mots, c'est deux lignes. Hein. C'est deux lignes et demie. C'est pas grand-chose, donc j'écris. C'est mieux que zéro. Quoi qu'il arrive, à la fin de la journée, j'aurais fait mieux que zéro. Et puis, ben, des fois, et même souvent, dans un élan un peu créatif, parce que tu as commencé, ce qui est dur, en fait, le plus dur, c'est de passer, d'ailleurs, si on garde des chiffres, c'est de passer de 0 à 1. Pas de passer de 1 à 2, de 2 à 3.
Oui.
Le plus dur, c'est ce que tu disais quand tu as arrêté de fumer. C'est d'enclencher, c'est de passer le binaire, quoi, de 0 à 1. Après, ce sera plus simple. Donc moi, quand j'écris mes 100 mots en me disant voilà, ça vaudra mieux que 0, ben, c'est bien souvent qu'après j'ai un petit élan créatif et puis en fait, j'ai pas fait 100 mots, j'en ai fait 500 ce jour-là. Et là, c'est bien mieux que 0, tu vois. Et puis des fois, quand j'en fais 500 comme ça le matin, je me dis allez, ce soir, je refais 100 mots. Puis en fait, j'ai refait 500 mots le soir et puis en fait, j'ai fait 1000 plutôt que 0 sur les 1600 qui étaient mon objectif initial. C'est bien. Et je le célèbre. Je célèbre le fait de ne pas avoir fait zéro parce que j'ai vu que toutes les conditions étaient réunies pour que j'abandonne. Donc, je n'ai pas atteint l'objectif, mais je n'ai pas abandonné. Ça, on peut le célébrer aussi.
En fait, le secret, c'est de voir le bon côté des choses, tout simplement. C'est-à-dire, au lieu de se dire « je n'ai pas fait ça », se dire « j'ai fait ça
».
Et notamment de ne pas voir les choses comme des échecs ou alors, en tout cas, de savoir que chaque échec va t'amener de toute façon. Il y a ce biais cognitif de l'impuissance acquise que j'aime beaucoup parce que c'est vrai que souvent, quand on échoue une fois, deux fois, on a tendance à penser que ça va être toujours pareil, qu'on va pas y arriver. Alors qu'on sait très bien que pour arrêter une drogue, quelle qu'elle soit, un comportement...
Il va falloir des arrêts.
Exactement.
D'ailleurs, on ne sait pas si tu es non-fumeuse à vie.
Exactement.
Tu es non-fumeuse pour
aujourd'hui,
le moment. Et peut-être qu'un jour, tu reprendras. Et tu recommenceras un processus fort de l'expérience acquise, de pourquoi tu avais repris, de comment ça s'était passé. Arrêter une addiction, du premier coup, c'est chapeau. Mais c'est le biais du survivant. C'est rare. Il ne faut pas trop écouter d'ailleurs les témoignages de ceux qui disent « Mais moi, j'étais très addict à ça, je fumais deux paquets de clopes par jour, j'ai arrêté du jour au lendemain à la naissance de mes enfants, et puis en plus, ça ne m'a même pas manqué. »
J'ai perdu 10 kilos.
C'est peut-être vrai, mais c'est quand même extrêmement rare. Donc là, on parlait de biais cognitif, c'est le biais du survivant. Ce n'est pas lui qui fait la valeur de foi, en fait. Hein. Il faut au contraire, d'ailleurs, plus parler avec des personnes qui ont échoué plusieurs fois dans leur tentative pour bénéficier de leur expérience et comprendre. Voilà.
Ah oui, non, moi j'appelle ça des écarts de conso. Et puis il y a des moments dans une vie où ça va m'arriver et j'en parle et il faut revenir. Il faut revenir à ce fameux biais de l'impuissance acquise. Moi, ça m'avait marqué cette histoire de l'expérience sur deux chiens. On leur envoie des charges et ils ont une pédale pour appuyer et ça arrête les décharges. Il y a un chien qui a une pédale qui fonctionne et l'autre, elle ne fonctionne pas. Et en fait, celui qui a la pédale qui ne fonctionne pas, en fait, ne va plus aller appuyer parce qu'il se dit « ça ne sert plus à rien ».
Ouais, bien sûr.
C'est d'une tristesse.
Il ne va pas refaire la tentative.
C'est d'une tristesse.
Ouais. Mais tu sais, sur une autre discussion avec mon ami, un ami, on parlait de l'échec justement. Et cette phrase n'est pas de moi, donc je lui rends. Mais l'image est très bonne. Il disait « mais moi, j'ai l'impression que dans ma vie, j'avance sur une route. Des fois, je marche, des fois, je cours. Et ce que tu appelles l'échec, pour moi, c'est tomber. » Et du coup, quand je tombe, à la fois c'est dur de me relever, mais que ce soit dur ou facile de me relever, ben, j'ai jamais reculé en tombant. Et j'aime bien cette image-là de se dire, ben oui, une rechute dans une addiction ou dans un sevrage, ben, une rechute, c'est tomber.
C'est comme les enfants qui apprennent à marcher aussi.
Exactement. C'est pas revenir en arrière, c'était tomber, ça a ralenti, t'as appris, t'as soigné les blessures et tu te relèves et tu continues en fait.
Et attention, j'ai lu un mème, on dit ça comme ça, je suis nulle, on appelle ça comme ça. C'était extraordinaire, elle dit, quand je retourne un peu en arrière, quand je chute en arrière, en fait, attention, parce que s'il faut, je suis en train de prendre de l'élan.
Oui.
Il y a peut-être un peu de ça aussi.
Ben, on peut.
Parfois, l'évolution, elle n'est pas linéaire, elle est en escalier, donc on monte, on redescend, on monte, on redescend.
Tu sais,
on continue. Il faut bien regarder si, en tout cas, on est dans une pente ascendante ou descendante. Parce que parfois, on monte, on descend encore plus bas, on monte, on descend encore plus bas. Comme les régimes escaliers, c'est très mauvais.
Oui, non, mais complètement. Et puis, pas se flageller, en tout cas,
c'est contre-productif.
Il faut s'aider soi-même, il faut se tenir par la main. Quand j'ai arrêté de fumer, j'étais sur la cigarette électronique. Je pars en Thaïlande et là-bas, il y a un gros lobby des cigarettiers. Des vendeurs de tabac qui ont un peu corrompu, même complètement, pas qu'un peu l'État, et ils ont fait interdire les cigarettes électroniques là-bas. Donc tu peux plus en acheter, tu n'as même pas le droit de vapoter. Et puis, moi, le premier jour, ma cigarette électronique se casse. Je ne peux pas en acheter, parce qu'il n'y en a pas là-bas. Et moi, je suis là-bas en vacances une semaine. Et je me dis, est-ce que j'ai envie de vivre le sevrage nicotinique là, durant mes vacances? Non. Donc je me suis assis, j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire et je me suis dit, ben non Fabien, tu n'as pas envie de vivre ça maintenant. Donc tu vas dans un bureau de tabac, t'achètes un paquet de cigarettes et maintenant voici l'enjeu. Tu as le droit de fumer pendant une semaine, mais une fois franchi les portes de l'aéroport d'Orly à ton retour, c'est terminé. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et j'ai une conversation comme ça avec moi-même et tu vois, je m'en suis jamais voulu d'avoir refumé cette semaine-là en entier. Je m'en serais bien passé. Réarrêter derrière n'a pas été simple, tu vois. Mais j'avais passé un contrat mental avec moi, je savais pourquoi je faisais les choses, mais en tout cas, je n'ai pas culpabilisé de ne pas être capable, du coup, de continuer mon processus là-bas parce que je n'avais pas l'outil qui me permettait de gérer ma dépendance sur cette phase de transition. Il faut se prendre par la main, quoi.
Donc le contrat mental, c'est important pour s'en sortir de...
Je trouve que ça aide.
Comment ça fonctionne concrètement? On se fait un vrai contrat? On se parle? On se prend par la main?
Alors, on peut écrire un vrai contrat.
En tout cas, tout est une question en tout cas, de conscience. Parce que j'ai l'impression
exactement.
Que cette histoire de contrat...
En fait, tu ancres toujours ta conscience dans l'instant présent.
Voilà.
Et la pensée, c'est quelque chose de très atemporel. Ça appartient au temps imaginaire. On appelle ça en maths. C'est tous les chiffres un peu irrationnels et imaginaires du moins. Et quand tu parles ou quand tu écris, tu mets de l'énergie. Donc ça devient en temps réel. Tu vois, ça s'ancre dans le présent. Parce que quand... D'ailleurs, si tu regardes, des fois, tu as des discussions passionnantes comme celles qu'on a. Et des fois, durant cette discussion... Tu découvres ta propre pensée, en fait, en réalité.
Complètement.
Parce que de tous ces 1000 pensées que tu avais en même temps, tu es en train de mettre de l'énergie sur une et elle te paraît plus claire à toi pendant que tu l'expliques à quelqu'un. Donc, c'est très important, en fait, comme tu dis, le contrat mental, tout ça, ce sont des outils, en fait, pour s'ancrer dans le présent et pour avoir conscience de ce qui se passe, de qui on est, de ce qu'on vit, du temps qui passe, etc. Donc, moi, j'ai tendance à me parler à moi-même. On peut se le faire à l'écrit. Alors, moi, quand je fais des contrats mentaux à l'écrit, j'ai l'impression... Je m'arnaque moi-même. Je me demande trop de choses dans le contrat. Je suis beaucoup trop fort.
C'est comme les listes de to-do list, on en met trop.
C'est facile d'écrire. Donc il vaut mieux avoir une bonne discussion à voix haute avec soi-même pour se comprendre, pour parler, pour échanger, mettre de l'énergie ou impliquer une tierce personne de confiance dans la discussion.
En fait,
ça marche très bien.
Voilà,
hein.
En fait, c'est ce qui se passe dans les groupes de parole et les sponsors, comme on appelle ça, les parrains, les marraines. Le fait d'aider quelqu'un et donc de lui dire les choses, en fait, deviennent pour toi claires.
C'est ça.
Et le fait de dire à quelqu'un pourquoi lui ne doit pas prendre ce verre ou cette drogue ou cette chose, en fait, toi, ça te rappelle pourquoi tu dois pas le faire.
C'est du vrai témoignage. D'ailleurs, il y a dans ces groupes de parole, ceux qui aident le mieux les autres sont souvent ceux qui ont le plus de difficultés. C'est parce que, comme tu dis, ils ont cette compréhension de ce qui se passe, en fait. Et c'est ce miroir qui va les aider eux-mêmes.
Par rapport à l'histoire de la mémoire, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. C'est les deux portes d'entrée de la mémoire dont tu parles, donc, qui sont l'attention et l'émotion. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire, à nous expliquer comment, par exemple, l'hypnose ou le livre d'Alan Carr pour la cigarette, qui a fonctionné pour moi pendant un an, par exemple, avec des millions de gens comment est-ce qu'il fait fonctionner justement de mettre de l'émotion dans quelque chose, même avec l'hypnose, Kevin Finnell, il dit ça très bien aussi, on ancre les choses par l'émotion.
Oui, alors, tu vois, pour le coup, le livre d'Alan Carr n'a pas marché sur moi parce que je voyais bien la mécanique. Moi, je voyais la partition au lieu d'entendre la musique. L'émotion et l'attention, c'est les videurs de la boîte de nuit qu'on appelle la mémoire. Et en fait, c'est un processus très simple. C'est-à-dire que notre mémoire, elle peut tout stocker. Mais ce ne serait pas très utile parce que le conscient, il ne saurait pas où aller chercher les bonnes données. Donc, pour les ranger, l'attention, c'est la mémoire qui se dit « Si mon humain ne prête aucune attention à ce que dit cette personne, pourquoi je m'embêterais à utiliser de l'énergie pour aller le stocker ?» Et l'émotion, elle est pareille, très ancienne, elle nous dit que « Attention, si ça m'a fait très peur, il ne faut pas que dans le temps, j'ai de nouveau très peur de cette situation, donc je vais bien l'ancrer en mémoire. » C'est d'ailleurs aussi comme ça que se créent les traumas. Hein. Les traumas, c'est des souvenirs qui tournent en boucle parce qu'ils n'ont pas été rangés dans la mémoire tellement ils ont été puissants, tu vois.
Mémoire chronologique.
Absolument. Donc, mais heureusement, il n'y a pas que les émotions négatives qui ancrent le souvenir, il y a les émotions positives. Donc, célébrer aussi ces réussites quand on résiste à une addiction ou quand on fait des comportements. Donc le célébrer, c'est pas que se féliciter aussi, hein. C'est des fois se dire, tu vois, moi dans ma vie, je me suis offert un drone parce que j'ai fait comme ça une belle réussite de résistance sur
ça,
un point.
Ça joue sur ta mémoire, bien tu te sûr. Rappelles de ce moment-là.
À chaque fois que je joue au drone, je suis fier de moi, je me dis, bah, ça c'est parce que j'ai
ça,
bien...
c'est la mémoire, comment on l'appelle ?
La mémoire épisodique.
Épisodique. Ouais. Et la mémoire procédurale, c'est celle aussi qui
c'est
nous...
C'est du geste, ça c'est la mémoire du geste.
Et du coup, l'addiction, par exemple, le fait de fumer ou de boire ou de faire un trait de cocaïne... ça implique la mémoire procédurale, oui. On a l'habitude de le faire.
Oui, oui.
Et ça, c'est ce qui est de plus difficile à désenclencher.
Ben, disons qu'on peut, on peut le désenclencher en termes d'émotions et de réflexes, mais le problème de la mémoire procédurale, c'est qu'elle est tellement puissante que toute sa vie, on saura faire. C'est pour ça qu'on dit le vélo, ça ne s'oublie pas. Donc, malheureusement,
c'est pour ça qu'on dit qu'on ouais. est abstinent, mais exactement. Addict à vie. Donc exactement. On est fumeur, toi et moi, abstinent. Je pense qu'on peut terminer là-dessus. Moi, je suis hyper contente. J'aurais eu.
On aura l'occasion de reparler, j'espère.
J'espère qu'on en reparlera. Si tu as un dernier mot à dire, une contre-addiction avec un tiret, quelque chose qui pour toi fonctionne dans les moments où tu es prêt à flancher ou à perdre ta motivation ou à douter de pourquoi tu as eu cette idée de génie. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais partager avant qu'on.
Bah déjà, de jamais, dans ces moments où on est prêt à flancher, de jamais remplacer une addiction par une autre.
Ah, ok.
Donc, c'est un peu le coup de je disais tout à l'heure, tiens, je vais arrêter le café. Non, je ne vais pas boire de café, je prends mon téléphone et je vais aller me mettre sur Internet. Ben non, ça ne marche pas.
Pareil.
Ce qui fonctionne très bien pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres, c'est, tu vois, en hypnose, on appelle ça la rupture de pattern. On peut se la provoquer. Je suis assis ici dans la table, dans le studio avec toi. J'ai une envie impériale de quelque chose. Il faut que je change tout. Je suis assis, il faudrait que je sois debout. Je suis avec toi, il faut que je sois seul ou avec d'autres personnes. Je suis dans le studio, soyons dehors, en extérieur. Juste pour 2 minutes, 3 minutes. Et cette rupture de pattern, elle prend en compte le fait que l'envie impériale, elle est née par des stimulations. Je ne suis peut-être pas capable d'identifier lesquelles. Donc si je rechange toute la situation, quoi qu'il arrive, je vais débrancher le côté impérial. Je vais reprendre sur moi 2 minutes et puis je vais revenir ici. Donc ça, c'est un bon conseil.
Génial, changement de pattern. À très bientôt.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Rendez-vous dans 15 jours sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose, de Double Monde et de Contradiction.
C'était l'émission Contre Addiction avec Rose sur IDFM Radio. Rendez-vous lundi prochain de 21h à 22h. Retrouvez le podcast sur rose-lesite.fr et idfm98.fr.
IDFM 98FM.
Tu voulais juste j'allais bien. Il m'a dit je suis sans cœur. Je vois bien qu'il s'attache. Moi je t'as la peur. Ça me touche pas, je sens rien. Je me rappelle plus de son prénom. Je vois bien qu'il altime. Moi je parle à pas. Ça me touche pas, je sens rien. Bébé c'est Il parle beaucoup, il me fatigue. Il attend que je lui fascine. Il m'a déjà saoulé. Déjà. Il veut monter dans l'audi. Mais j'ai pas que ça à faire. Il rêverait de me soulever. Déjà. Il sait que je suis pas seulement jolie. Il sait que je suis game comme mon catatoudi. Il m'a dit avant qu'il me raconte sa story. Ou que je le blesse, faut que je remplace et que j'oublie. Il m'a dit je sens que je vois bien qu'il s'attache. Moi je parle à pas. Ça me touche pas, je sens rien. Je me rappelle plus de son prénom. Je vois bien qu'il altime. Moi je parle à pas. Ça me touche pas, je sens rien.
Je ne laisserai pas mon cœur. C'est très rare que je m'attache. Moi je la parle à pas. Ça me touche pas, je sens rien. Comme du sale, c'est mon prénom. Elle veut que je la démonte. Moi je la parle à pas. Ça me touche pas, je sens rien.
Je voulais dire je l'ai bien. Il m'a dit bébé c'est
je très bien que t'as capté. Que je suis pas comme les autres. Je préfère quand c'est direct. Je sais que t'es vénère quand je te cause. Trop de sale sur le CV. Mindset, je suis comme Gigi. Pour le respect, je peux les deck. J'ai laissé le pétard sur le chevet. T'as pas capté l'essentiel. Pourquoi toujours plus? Tu me fais plus confiance. T'as peur pour ton cœur. Je vais te prouver le contraire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bitches qui m'appellent. Je veux que tu me crois quand je dis que toi c'est pas la même. Tu fais genre mais je sais que t'es piqué. T'es type de joli gars, c'est juste une carapace. Si je suis pas là, c'est qu'il y a l'oseille qui m'appelle. Je veux que tu me crois.
Il m'a dit je fais son cœur. Je vois bien qu'il s'attache. Moi je veux pas la part. Ça me touche pas, je sens rien.
Moi je parle la peau, ça me touche pas, je sens rien. Je me rappelle plus de son prix, je vois bien qu'il a le démon. Moi je parle la peau, ça me touche pas, je sens rien.
Je te laisse pas dans mon cœur, c'est très rare que je m'attache. Moi je la parle la peau, ça me touche pas, je sens rien. C'est mon prénom, elle veut que je la t'aime. Moi je la cale à pas, ça me touche pas, je ressens rien.
Je voulais juste je voulais bien Il m'a dit bébé c'est je voulais juste je voulais bien Il m'a dit bébé c'est je sens rien. Quand tu me regardes tu bébé je voulais juste tonight by the water, she's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby, all on her own. No one will come, she's got to save him. She tells him, ooh love, no one's ever gonna hurt you love. I'm gonna give you all of my love, nobody matters like you. She tells him, your life like my life, you're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock a bye, baby, rock a bye. I'm gonna rock you, rock a bye, baby. Don't you cry. Somebody's got you, rock a bye, baby, rock a bye. I'm gonna rock you, rock a bye, baby. Don't you cry. Rock a bye.
In the hard life without no fear, just see and know that you really care. Cause any obstacle come you well prepare. And no mama you never said tear, cause you have to set things year after year. And you give the you love beyond compare. You find the school fee and the bus fare.
Now she got a 6-year-old trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe. When she says ooh love, no one's ever gonna hurt you love. I'm gonna all of my love, nobody matters like you. So rock a bye, baby, rock a bye. I'm gonna rock you, rock a bye, baby. Don't you cry. Rock a bye, no, oh, rock a bye. Now she got a 6-year-old trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe. When she says, she tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you.
Écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
IDFM Radio, 98 FM.
Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. Take the pain away.
Some days I feel broke inside, but I won't admit. Sometimes I just wanna hide, cause it's you I miss. And it's so hard to say goodbye when it comes to this.
IDFM Radio 98 FM.
La vie défile, mais qu'est-ce que je fous là? Risque tactile et dans mes doigts. La peur se glisse, volant au bout des bras, toujours en lice, du moins je crois. Oui, je te jure, j'ai vécu comme j'ai aimé à toute allure, sans compter. Oui, je t'assure, j'ai vécu comme je roule droit vers l'amour et vers la foule. Il y a, il y a, ce moteur au fond de moi ne m'en veut pas. Il y a, il y a, déjà le ciel dans les ailes qu'on déploie. Force qui me dit va vite, viens, comme un refrain. Il y a cette voix qui me dit la prochaine fois ne freine pas. Falling out of love, falling right back in it on the nights I had too much. Yeah, tryna break these codes. Then I text you 3 a.m. I'm psycho, lock me up. Yeah. Didn't think about you at all tonight, till they played that French song you like. Il y a, il y a, sur mon cœur un fond de moi ne move pas. Il y a, il y a, des jaloux c'est dans les ailes qu'on déploie. Il y a, il y a, cette force qui me dit va vite, viens. Ne freine pas.
Je vois l'aiguille au compteur et mon cœur se serre. Coule ta sueur, excuse-moi mais j'accélère.
You say you don't love me, baby, you say you don't care. But every time that we together, we end up in a mess.